Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1984, pour l'émission Les Inconnus de l'Histoire, Jean Montalbetti faisait le portrait de Bernard Grothuysen, figure intellectuelle de la France littéraire de l'entre-deux-guerres, peu ou prou tombée dans l'oubli après sa mort en 1946. Né en 1880 en Allemagne, élève de Georg Simmel et de Diltay, il partagea sa vie à partir de 1904 entre Berlin et Paris, où il s'installa définitivement en 1932 pour fuir la montée du nazisme dans son pays natal. Fondateur au mi-temps des années 20 de la collection La Bibliothèque des idées chez Gallimard avec Jean Paulhan, éminence grise de la NRF dirigée par ce dernier et membre du comité de lecture de la maison pour laquelle il s'occupait des littératures étrangères, il marqua la pensée et la sensibilité de très nombreux écrivains et intellectuels de son temps, parmi lesquels ses amis André Gide et André Malraux. Amitié, qui formait le fil directeur du deuxième volet de cette série de trois émissions, diffusée pour la première fois sur France Culture le 20
janvier
1984.
Les inconnus de l'histoire. Depuis vendredi dernier, nous sommes à l'écoute d'une pensée, d'une personnalité qui a marqué deux générations dans les années 1930 et 1940. Nous poursuivons cette enquête sur un Socrate allemand en dialogue avec Gide et Malraux. Bernard Grothuysen par Jean Montalbetti, médiateur Jean-Toussaint de Santy et Dominique de Santy, consultant Francis Ponge, poète, et Yvon Bellaval, philosophe, avec les témoignages d'André Gide, de Maria Van Rysselberghe, d'André Malraux, de Manès Sperber, avec les voix de Pierre Vernier et d'Odile Poisson dans une réalisation de Jean-Claude Loiseau. Jean-Toussaint et Dominique de Santy, Bernard Grothuysen, qui est né en 1880 et est arrivé en France au début du XXe siècle, vous l'avez connu l'un et l'autre au début des années 40, mais déjà depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire probablement depuis 32-33, lorsqu'il a quitté Berlin en 1932 devant la proximité de la montée du nazisme. Il exerçait toute une aura intellectuelle, notamment dans le milieu de la NRF. Alors, oui. Quel a été essentiellement son apport dans ce domaine comme éditeur chez Gallimard?
Alors, je sais que lui, son grand ami Brice Parrain, qui était très axé sur tout ce qui était slave, à eux deux, ils orientaient avec Paulhan naturellement, mais qui était toujours d'accord avec eux, ils travaillaient très étroitement ensemble, ils orientaient tous les livres de pensée, c'est-à-dire de philosophie, d'histoire et de ce que nous appelons à présent les sciences de l'homme, c'est-à-dire de sociologie, puis les essais qui ont pu paraître. Et d'ailleurs, étant donné que Grout était certainement celui qui connaissait le mieux les langues, c'est-à-dire qu'il n'en avait pas une connaissance comme ça, école de langue, ou portier d'hôtel, ou manuel de conversation, mais qui avait la connaissance profonde de la culture de cette langue, on ne publiait rien sans son opinion.
L'allemand, le russe, l'anglais aussi?
L'anglais très bien.
Ah, l'anglais très bien, le hollandais également. Enfin, on n'a peut-être pas beaucoup traduit du hollandais, mais Groot connaissait bien le hollandais. Et alors, ce qui était également très important, c'est qu'il était profondément lié, d'une part, avec Poland, dont l'influence sur la NRF était décisive, et d'autre part, avec le grand personnage dont le prestige était total sur Gaston Gallimard, André Gide.
Est-ce qu'on sait par qui Bernard Grotwiesen est entré chez Gallimard? Est-ce que c'était une rencontre avec Gaston Gallimard, ou est-ce que, plus vraisemblablement, c'est par l'intermédiaire d'André Gide?
J'en sais rien. Je sais qu'il a connu très vite André Gide, puisqu'il me racontait en riant... Ils m'ont nommé pédéraste d'honneur. Je ne pouvais pas aller plus loin. Et d'ailleurs, il passait les vacances avec Gide, avec la petite dame, avec Elisabeth van Rysselberghe, la fille de la petite dame, dont, comme on le sait, Gide a eu une fille, Catherine.
Et avec Catherine, justement.
Et, exactement. Et avec Catherine, que Grotwiesen et Alix ont vu naître et ont vu grandir. Et Catherine, qui a d'ailleurs assisté au dernier moment d'Alix à l'hôpital. Vraiment, ils étaient des familiers chez Gide et donc chez Madame van Rysselberghe, sur le même palier.
Oui, justement, quand on lit les cahiers de la petite dame de Maria van Rysselberghe, on trouve assez souvent, justement, mention des visites au vanneau des Groots, comme elle dit.
Les Groots.
Et
ben
on a presque l'impression, d'ailleurs, qu'ils ont leur jour, notamment pour venir dîner au vanneau.
Oh bah écoutez, ils venaient certainement au moins une fois par semaine, ça devait être convenu, mais soit pour le travail, soit parce que quelqu'un avait téléphoné à Gide ou qu'une question s'était posée à Gide, ils se voyaient certainement plus d'une fois par semaine.
Avec Gide, ce sont des rapports uniquement d'amitié, d'amitié intellectuelle ou également des rapports de travail?
Oh non, beaucoup des rapports de travail, c'est-à-dire d'abord... Quand Gide était traduit en allemand, ou en anglais, non, il n'avait besoin de personne, mais en allemand, toujours, il faisait appel à Grotwiesen pour revoir la traduction. D'autre part, quand il lisait une œuvre dans une langue étrangère, il désirait toujours en discuter avec Grotwiesen. Et c'est ainsi que nous trouvons, le 3 novembre 1929, dans les cahiers de la petite dame, cette note « Même délicieuse et longue journée de travail avec les Grotwiesen ». Même, donc, c'est une poursuite de quelque chose. On perd peu de temps à bavarder, mais le moindre mot devient matière intéressante. Et ça, c'est très bien vu, parce que, comme nous l'avons dit tout au long de cet entretien, le moindre mot de Groot vous obligeait à aller plus loin qu'on ne savait qu'on pouvait aller. Et visiblement, c'était la même chose chez ceux que j'appellerais l'Égide, enfin le coin vanneau. Je ne sais à quel propos Grotwiesen parle de la psychologie de l'être louche. Celui, dit-il fort bien, qui n'arrive pas non plus à faire du mensonge sa vérité et qui toujours louvoie. Ce serait un type bien amusant à créer, dit Gide. Mais on dirait encore que je me peins moi-même. Alors vous voyez, c'était plein d'humour. Et en même temps, nous voyons que Groot poussait Gide aussi à la pointe de lui-même. Et ça a été comme ça pendant de très longues années. Et puis, il y a eu le rapprochement entre Gide et les communistes au moment de l'affaire du procès de Dimitrov.
Alors justement, il s'agit donc des réactions des intellectuels français lors des poursuites des communistes allemands par les nazis.
Oui.
Est-ce que Grotwiesen, bon, qui était certainement particulièrement sensible à tout ce qui se passait
au cœur
en Allemagne,
de cette
bien entendu, est-ce que Grotwiesen a pu avoir une influence sur Gide, justement, pour provoquer sa réaction?
Oui, assurément.
Et son
engagement. Assurément, oui. Il y a deux personnes, beaucoup de gens ont influencé Gide, qui était très influençable. Mais enfin, il y a deux personnes dont l'influence a été déterminante, je ne dis pas sur son voyage en URSS, mais sur sa prise de position préalable, c'est Grotwiesen et Malraux. Or, Malraux était en grande partie animé par Grotwiesen, justement. Par conséquent, nous retrouvons un Grotwiesen au deuxième degré. Et Gide se référait constamment à Grotuisen pour tel et tel point qui lui paraissait obscur dans l'attitude des communistes. Gide n'aimait pas Aragon, n'aimait plus Aragon du tout. La petite dame lui disait d'ailleurs « il ne vous aime pas ». Et un autre proche de Gide, un type tout à fait extraordinaire, une espèce de nomade éternel que Grotuisen a très bien connu, et que j'ai vu pour la première fois chez Grotuisen, Pierre Herbart, l'auteur de l'admirable Ligne de force. Pierre Herbart était très, très proche de Grotuisen et communiquait beaucoup avec lui, car Herbart était un militant communiste qu'on a envoyé en URSS et qui, là-bas, a découvert la vérité de l'URSS. Et c'était tragique parce que c'était le moment où la pression, justement, de Pierre Herbart, mais aussi les affectueuses pressions de Malraux et de Grotuisen, avaient déterminé Gide à aller en URSS. Et Herbart, envers lui-même, n'osait plus se dédire. On a envoyé Herbart, les Russes ont envoyé Herbart chercher Gide à Paris et le ramener. Herbart l'a fait, étant déjà profondément désillusionné et déçu sur l'URSS.
J'étais invité déjà depuis assez longtemps à aller en Russie. J'ai déclaré que je n'irais en Russie que accompagné de 5 camarades. Je dis camarades, bien que je ne veux pas dire là, par là des gens inscrits au parti. Je l'ai consenti à ce voyage avec enthousiasme, avec joie. Que à condition, je vous dis, d'être accompagné, quoi. Il y avait Chiffrine.
Jacques Chiffrine.
Il y avait Guillou, l'auteur du Sang-Loire, Pierre Herbart, qui depuis un an avait vécu à Moscou et commençait à parler à peu près le russe, hein, en tout cas était très au courant des questions, Jeff Last et Eugène Dabit, qui malheureusement est mort en Crimée.
Est mort en Crimée à la fin de votre
à
voyage.
À la fin de notre voyage, qui a ajouté une note affreusement tragique à ce voyage, évidemment sensationnel. Je regrette un peu, et j'ai été prudent à l'excès, sans du tout pouvoir me rendre compte, comme je le fais aujourd'hui, de la surveillance qui était exercée sur nous. Quand même, nous avions ce que nous appelions en riant nos anges gardiens, qui surveillaient étroitement tout ce que nous faisions. Mais enfin, nous l'admettions. Par certains mouvements de révolte que j'ai pu avoir là-bas, je n'ai pas osé, et je le regrette aujourd'hui, je n'ai au pied de la lettre, je n'ai pas osé tenir un journal de ce voyage. J'avais l'impression qu'on pouvait fouiller dans mes affaires et que ce que j'avais à dire n'était peut-être pas, l'avenir l'a prouvé, toujours à la louange de l'URSS, et que je... Enfin, que c'était assez dangereux. Et pour même préciser cela, je vais tout de suite à la fin de notre voyage, nous devions Pierre Herbart et moi, prendre l'avion pour Paris un certain mercredi. Et je me souviens très bien que le lundi, nous nous sommes dit l'un à l'autre, ça commence à sentir le roussi, partons mardi la veille. C'est pour vous indiquer l'état d'esprit dans lequel nous étions. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous pouvez vous représenter ce qu'a pu être ce voyage. Je peux dire vraiment que, mais je le dis en riant, j'ai vraiment connu la gloire. À un point qu'on ne se figure pas. Il m'est arrivé d'entrer dans une salle de spectacle, le spectacle s'interrompant et l'orchestre jouant la Marseillaise parce qu'on m'avait vu, n'est-ce pas? C'est ce genre-là. Oui. Chaque fois que je me déplaçais, ben, je ne pouvais pas aller dans un village sans qu'il y ait des banderoles toutes prêtes, n'est-ce pas? Pierre Herbart prétendait que nous les transportions nous-mêmes dans l'auto et qu'on les déployait au dernier moment. Mais ça, c'est une plaisanterie. La vérité, c'est que le village était couvert de banderoles à la gloire d'André Gide, le plus grand écrivain français, etc. Mais c'est des choses absolument ridicules.
Et cela ne vous a pas monté à la tête?
Bon, oui, au cœur, enfin, c'est assez capiteux. Et heureusement, j'avais mes compagnons avec moi pour en rire, ce qui m'épargnait le ridicule d'une coupée de dents à l'excès, n'est-ce pas?
Avez-vous pu rencontrer là-bas des écrivains, des artistes, des intellectuels?
J'en ai rencontré deux, Alexis Tolstoï d'une part, mais il a beaucoup fait sans qu'il s'en rende compte pour me faire, je peux presque dire détester ce régime. quand il me racontait qu'il avait plusieurs enfants, par conséquent il avait plusieurs propriétés, plusieurs autos, une par enfant, n'est-ce pas? Je dis, est-ce vraiment ça que nous cherchons en Russie? Et puis alors il y en a un autre pour qui, que j'avais déjà rencontré à Paris, pour qui j'ai été pris d'une violente sympathie, c'était Pasternak, que je considère comme un vrai, un grand poète, et qui, à la suite de la publication de mes livres, m'a renié et m'a vomi. Mais il le devait, il ne pouvait pas. On savait qu'il était venu me voir, que j'étais allé le voir. Et je me souviens très bien que deux jours avant mon départ, le rencontrant à l'hôtel, l'hôtel Métropole,
Métropole,
Métropole de Moscou, dans le hall, il m'aperçut, courut à moi, avec un air assez bouleversé, se rendant compte qu'il m'avait peut-être trop parlé. Il vint me dire, vous savez, il ne faut pas tenir en considération ce que j'ai pu vous dire l'autre jour, je ne sais pas, j'étais ivre, enfin, je vous en prie, ne tenez pas compte de ce que j'ai pu... Enfin, quelqu'un aux abois.
Grothuysen, peut-être pour garder des illusions sur l'URSS, mais surtout Alix disait « Oh ben bien sûr, Gide a été vraiment trop choqué par la condition faite aux homosexuels en URSS, mais bien entendu, cette condition nous paraît inadmissible, bien sûr, mais enfin, ça c'est passager, ça, me disait Alix. »
Il y a eu un article de Gide, justement, sur les homosexuels en URSS.
Ah ben bien sûr, mais si vous voulez, alors...
Mais évidemment, on ne pouvait pas en faire l'unique raison.
Voilà. Alors, les communistes, pour expliquer le livre de Gide, ont dit, ah, bien naturellement, lui qui est le militant de la cause homosexuelle, en voyant que cette question était non pas résolue, mais aggravée en URSS, a été profondément choqué. Et de ce fait, il a jugé négativement tout ce qui se passait en URSS. Et Alix, c'est comme ça qu'elle m'avait expliqué Retour de l'URSS. Je dois dire que moi, j'avais lu Retour de l'URSS, je devais avoir 16 ou 17 ans, et je n'étais pas du tout communiste, et j'avais trouvé que c'était le moins qu'on pouvait dire sur l'URSS. Alors, mais quand Alix me parlait, c'était en 40-41, je commençais déjà à évoluer au sujet de l'URSS et à me poser des questions, et certainement, elle m'a beaucoup influencée en me disant, mais Gide a réagi comme ça à cause de la question homosexuelle.
On a une petite trace, justement, dans les cahiers de la petite dame. Lorsque Gide s'apprête à publier « Il attend les épreuves du retour du RSS » qui va paraître en novembre 1936, et on a l'impression que, bon, il sait parfaitement que ça va être une bombe dans le contexte de l'époque. Je rappelle que depuis quelques mois, c'est la guerre civile en Espagne et que toute la gauche intellectuelle française est mobilisée justement dans la lutte contre le fascisme. Il ne s'agit plus seulement de la lutte contre l'hitlérisme, mais également de la lutte contre le fascisme aux portes même de la France, qui n'est plus seulement en Allemagne, en Italie, mais également en Espagne. Par conséquent, quelqu'un comme Malraux, par exemple, pense qu'il n'est pas question de se désolidariser avec la patrie de la Révolution. Et au fond, une des premières à avoir la réaction de Gide au moment où il s'apprête à publier Le Retour d'URSS, mais où personne encore apparemment ne connaît le contenu de ce livre, c'est précisément Alix.
Alix m'avait chargé hier d'une requête pour Gide. Elle voudrait de lui quelques mots d'introduction pour une brochure sur Edgar André, ce communiste allemand injustement condamné à mort par les tribunaux nazis. Ce matin, elle téléphone à Gide à ce propos et il l'engage à venir en parler à l'heure du thé. Au déjeuner, il me dit « Je réfléchis que s'il est prudent de ne pas répandre mon opinion sur l'URSS avant la publication de mon livre, il n'est pas bien devant certains de faire le cachotier. Ainsi, dès aujourd'hui, je voudrais avertir Alix. » Il a déjà parlé à Nizan, qu'il aime bien et considère comme intelligent, sans bien démêler ce que Nizan pense lui-même. Parleur est-il aussi availlant? Non. Alix et Groot arrivent à l'heure du thé et tout de suite il est question de la brochure à préfacer. Il leur lit à haute voix la petite introduction qu'il a rédigée. À un moment donné, voulant flétrir l'action néfaste de la tyrannie, Gide use du mot « dictature ». Alix aussitôt dit « Ne pourriez-vous pas mettre fascisme à la place? Sinon, on va englober la Russie dans ce jugement. » « Mais c'est que je l'englobe, moi, » dit Gide. Un assez long silence. La phrase finit par s'arranger à la satisfaction de chacun. L'important était du reste de donner à Alix cette petite indication.
Pauvre Alix. Alors, quand le livre « Retour de l'URSS » paraît, alors là, pour elle, c'est vraiment la crucifixion. Parce que finalement, entre la fin des années 20 et 1936, pour elle, le coin Vanneau, c'était presque aussi familier que son atelier de la rue Campagne Première. Et voilà tout d'un coup que ça devient une zone, sinon interdite, parce qu'elle a quand même fait passer l'amitié avant les interdits politiques, mais au moins difficile, parce que comment expliquerait-elle à ses camarades qu'elle continue à fréquenter le traître Gide ? Alors, elle envoie Grotuisen au coin Vanneau et elle n'y va plus.
Les Grottes dînent avec nous. La conversation contrainte devient tellement banale qu'elle en paraît absurde. De plus, Gide a acheté hier un gyroscope qu'il fait marcher et montre avec complaisance. Il raffole de ce genre de jeu qui ne touche pas du tout les Grottes. Heureusement que la présence de Catherine rend cela plus naturel. Il se retire de bonne heure et Elisabeth aussi. Pierre et moi restons seuls en face des Grottes. Bientôt, Alix ne peut plus se contenir et parle du fameux article de la Pravda, dont nous n'avons encore lu qu'une traduction incomplète, qu'elle a l'inconscience ou la bêtise de déclarer admirable, ce qui déclenche une violente protestation d'Herbart, qui trouve cette façon de se défendre aussi grotesque qu'inadmissible, que du reste le parti se conduit d'une façon absurde, faisant vraiment tout pour détacher Gide du communisme, etc., etc. Et jusqu'à 2 heures du matin, ce ne fut qu'une longue et terrible discussion où vraiment Alix fut aussi fanatique, aussi butée qu'il est possible de l'imaginer. Il fallait sa visible détresse, son désarroi, pour tolérer tout ce qu'elle disait, attaquant Gide sur tous les points, même sur sa dédicace à David, affirmant des choses qu'elle ne savait pas, et s'en prenant à Pierre pour n'avoir pas déclaré que Gide ne disait pas la vérité, et à moi parce que j'avais une mauvaise influence sur lui, enfin ayant complètement perdu la tête. Quant à Groot, effrayé de sa violence, il déployait toutes ses ressources pour brouiller la discussion et rendre tenable la position désespérée d'Alix. C'était touchant et un peu irritant. Ce matin, Pierre et moi essayons en vain de raconter la soirée à Gide. Le diapason de la scène d'hier est irrendable et elle est évidemment un reflet de l'attitude du parti.
Francis Ponge, quelle a été l'attitude et le rôle de Bernard Grotuisen sous l'occupation, lui qui tout de même avait des liens à la fois sentimentaux et culturels très proches avec l'Allemagne?
Avec l'Allemagne. Et vous savez que Goethe a été l'introducteur du domaine allemand, n'est-ce pas, en France. Enfin, c'est lui qui a introduit, notamment par l'intermédiaire de la revue Commerce, vous savez, dont il a été un des chevilles ouvrières, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, la revue Commerce qui a été fondée par la princesse Margaret Caetani de Bassianou, qu'on appelait la princesse de Bassianou, qui habitait à ce moment-là à Versailles, et qui donnait des réceptions brillantes avec un tas de gens tout à fait merveilleux et tout à fait très international. Il y avait des gens de tous les pays et de toutes sortes, n'est-ce pas? Eh bien, c'était soi-disant Paul Valéry, Léopold Fargue et Valérie Larbeau, je crois, qui étaient indiqués comme le comité, si vous voulez, de lecture de la revue de la princesse de Bassianou. En réalité, le travail a été fait par des gens, qui ne se montraient guère, mais comme Poyan, par exemple, aussi comme Grotuisen, qui pour le domaine allemand, c'est lui qui a fait publier dans le commerce, dans cette revue qui s'appelait Commerce au singulier, eh bien, je suis absolument sûr, pour des gens comme Kastner, n'est-ce pas, comme écrivains autrichiens, qui ont été introduits en France par Gottlieb, n'est-ce pas, ça sans aucun doute. Ce que je vais vous dire aussi, c'est une chose, c'est que la seule critique qui était écrite sur mon premier livre, qui s'appelle 12 petits écrits, l'a été par Gottlieb. Et ça, pendant très longtemps, il n'y a eu que cette critique pendant très longtemps, puisque mon premier livre est de 1926, et que celui qui a suivi, le Parti près des champs, est 1942. Par conséquent, pendant très longtemps, n'est-ce pas, je n'ai eu qu'une critique. C'était celle de Gottlieb.
Il était votre découvreur, alors?
Oui, aussi, bien sûr. Non, vous savez, j'ai été ami avec Gottlieb depuis le début, comme ça, depuis 24, ou 23 peut-être, et 24 sûrement, et puis jusqu'à la veille de sa mort. Enfin, je l'ai vu pendant l'occupation. Il est certain qu'il a passé des jours et des nuits entières à parler plutôt qu'à écrire, sans aucun doute. Des gens comme Malraux ont passé des nuits entières à discuter avec... Je crois que Malraux a dit qu'il n'avait jamais connu de personne plus intelligente.
Saint-Dominique de Santi, le rapport de Bernard Grotwiesen avec André Malraux n'était pas le même que le rapport de Grotwiesen avec Gide, puisque Gide, depuis la fin du siècle précédent, avait déjà une notoriété tout à fait considérable. André Malraux, lui, appartenait à une génération différente. Il était, disons, par rapport à Grotwiesen, dans une posture de disciple. Beaucoup de témoins ont dit quelle était la part, justement, qu'André Malraux devait à Grotwiesen. Malraux le cite de temps en temps, mais au fond, il n'a jamais vraiment rendu très largement hommage à Grotwiesen. Et dans un dialogue qu'il avait eu
avec, Grover.
Avec Frédéric Grover, Grover l'interroge après la publication des Antimémoires, puisque André Malraux prépare la suite de Ce miroir des limbes, et il lui dit, dans les volumes à paraître, y aura-t-il des écrivains parmi vos interlocuteurs ? Pas nécessairement parmi les plus célèbres, mais peut-être au contraire des hommes qui ne sont pas totalement accomplis dans leur œuvre, comme Grotwiesen. On imagine un dialogue avec ce personnage légendaire et au fond inconnu que vous seriez admirablement placé pour faire revivre. Et Malraux répond « Remarquez que Grotwiesen a écrit une œuvre qui est relativement importante. » Donc il nous renvoie à ses textes. Mais il est bien certain, continue Malraux, que ces livres ne le représentent absolument pas. Donc là, il est assez catégorique. Oui. Ne donne pas la moindre idée du rôle qu'il a joué indépendamment de son écriture.
C'est vrai.
J'ai en effet passé beaucoup de temps avec lui, mais c'est comme pour mes conversations avec Valérie, les reconstituer me donnerait énormément de mal, car je n'ai pas pris de notes. La comparaison, en tout cas, est flatteuse.
Oui. Ben, écoutez, oui, mais je vous dirai quelque chose qui va peut-être beaucoup vous choquer, étant donné l'obscurité de l'un et la gloire de l'autre, je pense. Je suis convaincue, ayant connu Malraux et ayant beaucoup parlé de Groot avec Malraux, puisque nous l'aimions l'un et l'autre, je suis convaincue que Grotwiesen a donné à Malraux beaucoup plus que Valéry n'a pu lui donner, car avec Valéry, il parlait de poésie et de forme, mais avec Grotwiesen, Malraux parlait de ses obsessions, c'est-à-dire l'action, la gloire, l'écriture, la mort. C'est les thèmes qui revenaient constamment, l'amour dans sa tragédie.
Vous avez cité, Dominique de Santi, la condition humaine, le personnage de Gisors.
Oui.
Mais est-ce qu'on ne peut pas voir également dans les dialogues de la voix royale, justement, où reviennent cette obsession à la fois du rapport de l'action, de la mort, au fond, certains dialogues qu'il a pu avoir avec Bernard Grotwiesen, Jean-Toussaint de Santi?
C'est possible, c'est possible. De toute façon, Grotwiesen avait l'art de susciter chez ceux qui l'écoutaient leur imaginaire.
C'est exactement ça.
Alors je suppose que, ce sont des conjectures bien entendu, que Malraux n'y a pas échappé. Et que le seul fait d'avoir devant soi cet homme qui constamment vous sollicitait, qui constamment faisait en sorte que votre train de pensée aille au-delà de l'instant présent, au-delà de ce qu'il y avait d'explicite, ben je crois qu'il ne pouvait pas ne pas intérioriser tout ça et ne pas le rendre à un moment donné, sous une forme ou sous une autre, dans sa propre écriture. Mais c'est une question de fréquence des entretiens. Ben, je ne sais pas quelle était exactement.
Il y a eu un moment où ils étaient quotidiens parce que les Malraux, Clara et André, habitaient rue Campagne Première. C'était le moment de leur pire querelle et que par conséquent, l'un et l'autre venaient dans l'atelier de Groot pour expliquer l'impossibilité de communiquer, l'impossibilité de se séparer, la nécessité de se séparer, etc. Et Groot, qui n'admettait pas la passion dans sa propre vie, était obligé de prendre parti dans la passion des autres. De même, Jean Poulenc et sa première femme habitaient également ce même immeuble de la rue Campagne Première, et la mère des enfants Poulenc, Salah, et Jean Poulenc venaient également expliquer leur passion et leur désir de liberté chez Poulenc, l'amour persistant chez la femme, et c'était à Groot et à Alix d'essayer de faire comprendre à chacun des interlocuteurs ce qui leur restait en commun et ce qu'il faudrait qu'ils fassent, sans jamais donner un conseil, parce que c'était pas dans leur style de donner un conseil. Donc, il fallait susciter un dialogue au bout duquel l'interlocuteur puisse prendre une décision au moins momentanée qui le sortent de l'angoisse et du désespoir. Et c'est à ça qu'ils ont passé beaucoup de leur temps, Groot et Alix.
Grotwiesen, étant d'origine allemande, était donc directement en contact avec des Allemands qui fuyaient l'Allemagne hitlérienne.
Ah oui.
Et il a servi, je crois, d'intermédiaire également pour mettre en contact André Malraux avec un certain nombre de ces Allemands immigrés, notamment de ces Juifs allemands immigrés. Et ça a été le cas, par exemple, de Manès Perber, qui, lorsqu'il est arrivé en France, ne parlait pas français et donc a eu ses premiers contacts avec Malraux, qu'il a continué d'ailleurs à voir jusqu'à la mort d'André Malraux, par l'intermédiaire de Grotwiesen. Et c'était Clara Malraux qui faisait les traductions également de ces conversations qui se passaient moitié en allemand, moitié en français.
Une surprise m'attendait à Paris, les éditions Gallimard, à qui j'avais avant mon départ pour Londres envoyé mon manuscrit de 550 pages intitulé « Caractérologie sociale », m'informaient qu'elles prenaient le livre et le publieraient en français aussitôt que possible. Un historien et philosophe allemand, d'ailleurs peu connu en Allemagne, Bernard Grotwiesen appartenait à l'équipe des collaborateurs de la revue et des excellents auteurs dont Gallimard s'était entouré. Il était en France lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale. Il avait été interné en tant que ressortissant d'un État ennemi, puis assigné à résidence dans une ville de province. Ainsi, il s'habitua si bien à vivre dans un pays étranger qu'en définitive, il s'installa tout à fait à Paris peu après la fin de la guerre. Pendant de longues années, et jusqu'à sa mort, il fut à la NRF beaucoup plus qu'un conseiller pour toutes les questions concernant la littérature allemande, la philosophie et la psychologie. Il devint peu à peu le Socrate de ce cercle exigeant. À ce rôle convenait parfaitement le fait qu'au milieu de tant de gens qui pratiquaient assidûment l'art d'écrire, il écrivit lui-même très peu et publia encore moins. Il était occupé à la préparation d'un ouvrage d'histoire sociale qui, répétait souvent et volontiers ses admirateurs, serait d'une importance extrême et exercerait une action durable. Groot, c'est ainsi qu'avec respect et sympathie on l'appelait à l'NRF, était un homme de belle prestance. Accordé au ton tranquille et assuré de son discours et à la qualité des gestes qui l'accompagnaient. La seule chose qui frappait dans sa personne, c'était sa barbe poivre et sel, car on n'en voyait de pareil nulle part à la ronde. Dès notre première rencontre, Groot me parla de mon manuscrit avec compétence et amabilité. Son approbation me fit du bien, car en dehors du cercle de mes amis les plus intimes, il était mon premier lecteur. Avant que je le quitte, il m'avait présenté à Brice Parrain, avec lequel je discutais les détails du contrat. Manès Perber, au-delà de l'oubli.
Oui, mais Manès Perber c'était sans doute l'un des plus remarquables, mais ce n'était pas le seul. Je crois que tous les intellectuels allemands fuyant l'Allemagne hitlérienne, passait par l'atelier de la rue Campagne Première, qui était comme une sorte de plaque tournante. Et alors, quelquefois, Groot pensait qu'il fallait présenter telle personne à Gide et d'autres à Malraux. Et puis ça accrochait avec l'un ou avec l'autre. Et de même, pendant la guerre d'Espagne, j'ai l'impression que l'atelier de la rue Campagne Première a été un relais extrêmement actif. Et après, les républicains espagnols sont également passés. Il y a eu comme ça les couches successives d'exilés politiques qui passaient par l'atelier de la rue Campagne Première, ce qui explique que les journées et les nuits de Groot et d'Alix étaient, je ne dirais pas données aux autres, mais prises par les autres.
Bien des témoins, à propos de Bernard Grootwijzen, à l'époque des années 30 ou des années 40, au fond pensaient qu'il y avait une grande œuvre de Bernard Grootwijzen, une grande œuvre théorique qui était en cours d'élaboration et qui changerait quelque chose dans l'histoire de la pensée moderne. Or, cette œuvre a-t-elle existé ou était-elle simplement un projet ?
C'était un projet qui ne le quittait pas.
Yvon Bellaval, professeur de philosophie à la Sorbonne.
Mais jamais il ne se mettait au travail, parce qu'il était tellement amoureux des idées, qu'il y avait toujours des idées nouvelles, des livres qu'il n'avait pas lus, il était pris par cela. D'autre part, il y a tellement des exploiteurs, surtout à Paris, qu'il se livrait à n'importe qui, et il perdait son temps pour les autres, pas pour lui. Tout cela l'a retardé. Maintenant, nous disons ça après coup, mais on ne le sait jamais, dans le fond des choses, pourquoi un homme ne finit pas une œuvre que l'on dit, c'est pas toujours lui qui le disait, qu'il avait un esprit et qu'il allait donner. Il est sûr qu'il avait cela, un esprit, mais de là à la réaliser, il y a toujours un abîme. Un auteur trouve, surtout quand c'est un bon auteur, toujours en lui des difficultés qui deviennent insurmontables, parce que les sujets sont immenses. Et en effet, ça a été une déception à sa mort de voir qu'au fond, il avait peu publié par rapport à son immense talent, par rapport à ses connaissances sans fin, tout cela, il avait peu publié, et en revenant toujours sur les mêmes idées. Certains ont incriminé sa volonté d'être marxiste. Je ne vois pas pourquoi cela l'aurait gêné, d'autres ont écrit. Ça lui a permis, par exemple, d'écrire sur Rousseau et sur Montesquieu des pages qui sont de premier ordre et qu'il n'aurait pas écrit s'il n'avait pas été marxiste, c'est-à-dire s'il n'avait pas eu une perspective qui, justement, disciplinait peut-être son côté un peu vagabond, par de naissance peut-être, par curiosité, mais aussi parce qu'il était d'une période, quand il s'est formé, n'oubliez pas ces dates, il était né en 80, où se formait avec les Weber, avec les Diltai surtout, qui a été son maître, ce qui deviendra l'existentialisme. Et je vous rappelle que devait paraître, avait paru avant 14, lui déjà, le traité de psychologie pathologique de Jaspers, qui a été traduit en français après, vers 1927, des dates comme ça. Et on ne remarque pas assez, derrière le nom du traducteur en gros caractère, Mandouze, que Mandouze remercie les véritables traducteurs qui comprenaient Jean-Paul Sartre, élève de l'école normale. Or, c'est dans ce traité de Jaspers qu'on trouve cette différence entre expliquer et comprendre, qui est exposée avec la plus grande clarté. Et cela a envahi toute la philosophie française.
Mais alors, Yvon Bellaval, le paradoxe, c'est que cet homme, Bernard Grotthuysen, qui est de culture allemande, qui connaît la philosophie allemande, qui, dans ce milieu de siècle, va prendre une telle importance, avoir une telle influence en France, qui, dites-vous, est au fond un peu à l'origine du développement de la philosophie existentialiste, va être complètement oublié d'une certaine façon après la guerre et va apparaître un peu comme un homme du passé par rapport à la philosophie sartrienne.
Eh oui, mais parce que les marxistes n'étaient pas existentialistes d'abord, il ne faut pas oublier ça. Donc ils ne pouvaient pas exploiter directement ce que lui avait appris Diltai. Il le fait indirectement, il l'avait fait surtout, car il faut ne pas confondre les dates où il a écrit ses ouvrages. C'était généralement quand il était professeur à Berlin, et jusque vers 1930-31. Ça, c'est les grandes choses qu'il avait écrites. Et les dates de leur traduction, qui est beaucoup plus lointaine. Nous avons des livres comme « L'origine de la bourgeoisie », comme « La philosophie de l'histoire », etc. Toutes ces choses-là ont été publiées vers 57, bien plus tard. Et par conséquent, on était dépassé par rapport à l'histoire de l'homme. Vous voyez, ça, il y a une différence énorme. Mais il avait la culture qu'on pourrait appeler existentialiste. Il l'avait complètement. Ça, c'est certainement ça. Et ce qu'il a écrit, par exemple, l'anthropologie philosophique, c'était des cours que j'avais lus d'abord en allemand et qui avaient été publiés en 30-31, qui avaient eu plusieurs éditions en Allemagne. Mais il est parti pour fuir Hitler. Et on ne l'a connu en France que traduit. J'en avais fait le compte-rendu dans la Nouvelle Revue française, donc après 50, je ne sais plus à quelle date. Ça, c'est des choses qu'on a connues avec le décalage du temps. C'est comme quand on découvre un nouveau manuscrit de n'importe quel homme ancien. Vous voyez, c'est ça. On l'a dépassé. De telle sorte qu'il s'est trouvé plus vieux, j'entends, par ses productions, qu'il ne l'était réellement. Parce qu'on le voyait publier des choses qui étaient de 1930 comme esprit, et non pas de 1940. À mon avis, c'est ça qui le décale. Oui. Car Grotthuysen, on ne le connaissait que quand, par hasard ou autrement, on était avec lui, qu'on l'entendait parler. Mais il ne publiait pas un livre chaque année, il ne publiait pas d'ouvrage. De temps en temps, un article, mais pas d'ouvrage à proprement parler. Et c'est après sa mort que Jean Paulhan a publié des choses prêtes, comme le Jean-Jacques Rousseau, comme le Montesquieu, comme la philosophie de la Révolution française. C'est après que ça a été publié. Mais alors, là encore, nous revenons à cette espèce de décalage dans le temps, comme, évidemment, il y a toujours une pensée actuelle qui se donne pour la seule vraie. Vous savez que c'est comme ça. C'est les présents qui ont raison et les absents qui ont tort. Et il a pâti de cela aussi. Mais en effet, il y a la disproportion entre l'oral et l'écrit, si je puis dire, chez lui. Et quand on l'entendait, on ne pouvait être qu'admiratif et stupéfait de son savoir, de son intelligence, de sa bonté, parce que tout cela était ensemble. Vous comprenez, c'était un homme d'un seul bloc, on peut dire, n'est-ce pas, où il y avait toutes les qualités morales, toutes les qualités intellectuelles, enfin, on avait tout avec lui. Et on n'avait pas en face une bibliothèque.
Grotwiesen, dans le livre qu'il préparait dès avant la guerre sur le caractère allemand, cherchait à montrer que l'allemand composé de deux extrêmes, une âme et un automate, ne parvient presque jamais à remplir l'espace intermédiaire, communément et simplement humain. De Parsifal au pas de loi, tel devait être le titre de cet ouvrage. C'était Parsifal qui parlait. Je me souviens particulièrement de ce qu'il me disait de l'Amérique qui, prétendait-il, n'a point d'âme et n'a point mérité d'en avoir parce qu'elle n'a pas, jusqu'à présent, consenti à plonger dans l'abîme de la souffrance et du péché. Certaines de ces théories, et celles même auxquelles je me rattachais le plus volontiers, me paraissaient si contraires à l'esprit de la race juive que je ne pus me retenir de marquer mon étonnement. Il n'y répondait pas directement, mais prenant la question de revers et par un long détour, « Avez-vous remarqué, me dit-il, que lorsque certaines qualités sont trop profusément, ce n'est pas le mot dont il se servit, sont trop profusément éparses dans un peuple, dans une race, cette race, ce peuple ne parvient pas à produire un individu en qui ces qualités se trouvent très particulièrement concentrées. En Italie, par exemple, s'il n'y a pas de grands musiciens, c'est que tout le monde est musicien. L'Allemagne, par contre, au temps de Bach, n'était sans doute pas très communément musicienne. C'est bien là ce qui permit Bach. » Et brusquement, il s'arrêta, me laissant conclure. Certainement, il voulait me donner à entendre que certaines qualités n'étaient pas moins spécifiquement juives pour ne se trouver point éparses dans tous les représentants de sa race et que ces qualités précisément étaient celles que je m'étonnais à tort de rencontrer en lui. André Gide, Journal.
Yvon Bélaval, Bernard Grotwiesen semblait surtout en contact avec des écrivains, je veux dire des auteurs littéraires, comme par exemple André Malraux, comme Jean Paulhan. Mais quel a été le rapport de Grotwiesen avec les philosophes de son époque?
Les philosophes allemands, il est facile de répondre, bien entendu. Les philosophes français, il n'est pas facile de répondre. En effet, ils n'avaient pas de contact avec la philosophie académique, si vous voulez, n'est-ce pas? Et il cherchait la philosophie plus librement, comme le lui avait enseigné Tiltaille. Parce que la philosophie académique, puisque je viens d'employer cette expression, c'était, en Allemagne, comme en France, des programmes d'examen assez limités. C'était limité à des textes dits philosophiques depuis, pour l'Allemagne, depuis le 18e siècle, mais surtout le 19e siècle, avec l'historicisme, etc. Pour la France, on partait de Descartes, vous le savez, c'était toujours le même texte qui revenait. Mais on ne se mettait pas à méditer sur un tableau, par exemple. Ça, c'était les Diderot en tant qu'homme de lettres, mais pas en tant que philosophe, pour nous, n'est-ce pas? On ne méditait pas sur les choses de la vie courante, etc. Non. Tandis qu'au contraire, avec Tiltaille, Grotwiesen avait appris à inclure dans une réflexion vraiment philosophique des sujets qui n'étaient pas encore reconnus comme philosophiques. Depuis, ça a changé, depuis la mort de Grotwiesen, puisque, mon Dieu, tous les philosophes actuellement se sont occupés qui d'un musicien, qui d'un peintre, surtout les peintres, et ainsi de suite. Mais ce n'était pas la mode. Vous voyez pourquoi Grotwiesen surprend quand il était là entre 30 et 40, la philosophie française était académique. C'était Brunswick, c'était Alain. Alain est mal choisi parce qu'il s'est occupé de Valéry. Mais enfin, tout de même, c'était Henri IV. C'est Henri IV. Ce n'était pas la même orientation. Lui, il avait déjà, quand il est venu en France, une ouverture sur les lettres.
Jean Tardieu, à 19-20 ans, avant même d'avoir publié vos premiers poèmes,
puisque le Fleuve caché date de 1933 seulement, c'est-à-dire en 1922-23, je crois, vous avez participé à votre première décade de Pontigny, où était Gide, Martin Dugard. Est-ce que c'est dans le cadre de l'une de ces premières décades de Pontigny en 22-23 que vous avez rencontré pour la première fois Bernard Cottuisen?
Je ne saurais pas préciser si c'est cette année-là, parce que j'y suis allé plusieurs années de suite, mais c'est effectivement dans cette période, dans ces années-là, que j'ai rencontré Bernard Grothusen à Pontigny avec sa femme Alice Guilin. Quelquefois, elle ne venait pas.
Quelle était l'atmosphère de ces échanges de Pontigny?
Ah, moi, c'était une chose exaltante pour un jeune homme comme moi, qui avait forcément, malgré toutes ses aspirations romantiques, avait encore un horizon très étroit, et qui se trouvait confronté comme ça, tout d'un coup, avec tout ce qu'il y avait de plus merveilleux dans la société culturelle européenne, et dans la société culturelle, n'est-ce pas, avancée. Et nous avions le sentiment d'un élargissement de notre horizon, de notre vie intellectuelle, et planétaire, puisque nous rencontrions des grands esprits venus de tous les bords et de tous les pays.
Alors Gide régnait probablement à cette époque sur ces décades, et quel était exactement le rôle de Grothuysen?
Le rôle de Grothuysen a toujours été le même, c'était vraiment, sa personnalité faisait penser immédiatement à ce qu'on peut imaginer de Socrate, c'est-à-dire l'homme à qui on peut poser des questions infinies, mais qui vous les renvoie sous forme d'autres questions qui font avancer la connaissance. Et qui était non seulement accueillant et d'une intelligence extraordinaire, mais d'une très grande bienveillance. C'est ça qui est une bienveillance non exempte d'humour et même d'ironie.
Jean Tardieu, vous alliez voir Bernard Grothuysen dans son bureau des éditions Gallimard?
Ah oui, sûrement.
C'était un peu un cénacle qu'il tenait là?
C'est pas un cénacle parce qu'il n'a jamais... c'était un tempérament tellement... familier et simple, qu'il ne pérorait pas dans un groupe, n'est-ce pas? C'était vraiment plutôt ce qui était sa spécialité, c'est le tête-à-tête en conversation en profondeur, n'est-ce pas? Non pas de façon ni officielle, ni en le compte, mais avec beaucoup d'intimité et avec même beaucoup de grâce, car c'était un homme qui souriait beaucoup, qui riait même, et qui avait une égalité d'âme prodigieuse au milieu de cette période abominable.
Bernard Grothuysen, qui était un philosophe, semble-t-il, a été, dans les années 30, finalement, surtout en rapport avec des écrivains, et parfois d'ailleurs de jeunes écrivains. Alors vous étiez poète, quelle était sa démarche de lecteur de la poésie ou du roman?
Du roman, je le sais moins, mais comme lecteur de poète, il avait une très grande acuité de jugement, un très grand sentiment de la poésie. Et il est de ces esprits à génie métaphysique, mais qui donnent une importance, même dans leur système, à la poésie presque comme moyen de connaissance. Ils partagent ce privilège avec d'autres grands esprits, comme Heidegger, ou en France, comme Bachelard. De sorte que la poésie lui était toujours familière, même la plus récente, les jeunes pouvaient lui apporter des poèmes, ils voyaient tout de suite ce qu'il y avait de bon ou de pas bon, et ils vous conseillaient avec une sûreté extraordinaire.
Vous lui avez apporté vos
poèmes ? Je lui ai apporté des poèmes, ainsi qu'à Poland, et les choses se décidaient alors plutôt en trio. J'ai eu comme ça des moments de terreur, où j'étais, de terreur affectueuse, où j'étais confronté à ces deux personnages d'une... très difficile dans leur goût, et où j'avais affronté, mais les deux étaient pleins d'affection et de gentillesse. Poland était plus inquiétant, tandis que Grothuysen enveloppait toujours, même ses critiques, d'une grande douceur.
Jean Tardieu, vous avez beaucoup vu, je crois, Bernard Grothuysen et sa femme Alix Guilin pendant la période de l'occupation. Alors, quelle était exactement la situation de Grothuysen, qui probablement n'avait pas pris la nationalité française et se trouvait donc particulièrement menacé, ayant quitté l'Allemagne à l'avènement du nazisme?
C'était une situation d'homme, je ne dirais pas traqué, mais qui se cachait plus ou moins. Je dois même dire que pendant les dernières années de la guerre, Nous avons eu l'occasion de le cacher tout à fait dans une petite maison de campagne où vivait ma mère et où on n'aurait pas pu le... Il aurait été difficile de le trouver. Je ne sais pas à quoi ça correspondait. Je sais que par moments, il sentait rôder plutôt l'intérêt ou la curiosité de tout le tel Allemand qu'il a... qui avait peut-être été son élève et qui se trouvait à Paris, peut-être sous l'uniforme allemand, et c'était une chose à éviter, n'est-ce pas? Et même si il s'agissait de quelqu'un qu'il admirait et qui ne voulait pas lui faire de mal, mais c'était tout de même dangereux. Malgré des circonstances aussi abominables, il restait, son idéal restait tellement au-dessus de ce qui se passait qu'il restait un Européen, avant tout, un grand esprit de la culture européenne. D'ailleurs, par ses origines, il était en partie russe, en partie hollandais, en partie français. Et il a continué à jouer ce rôle, ce qui est tout à fait merveilleux et exemplaire. J'ai eu la chance à ce moment-là, tout de suite après la guerre, de l'aider à travailler un petit peu, parce que je ne veux pas dire de mal de... les gens qui l'employaient, mais je crois qu'il n'était pas très richement rétribué. Et alors j'avais pensé, je lui avais proposé, il avait accepté de faire une série d'émissions dans le service que je dirigeais à ce moment-là, qui était le service dramatique de la radio. Et nous avions conçu l'idée d'une série d'émissions faisant le tour de tous les dialogues existants dans la littérature mondiale. Depuis Platon jusqu'à Valéry ou Paulin. C'est un sujet immense et magnifique. Tout à fait pour lui, parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont de tournure philosophique ou d'inspiration philosophique. Alors, cette série qui s'appelait Graines de drame, qui était mise en scène par Bronislav Horowitz, avec beaucoup de goût, a été une chose assez extraordinaire parce qu'il arrivait à faire des choix très symptomatiques de grandes œuvres, soit de Platon ou de Plotin. Et à les préfaces, ça se passait donc en deux ou trois émissions, et avec des préfaces très courtes mais extraordinaires. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de moyens de ni pour reproduire les choses, ni pour les conserver. C'était encore les tout débuts de la radio. Et Alix Guilin tapait comme elle pouvait les textes de Grotuisen en un ou deux exemplaires. Il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai le désespoir d'apprendre que ces textes-là se sont perdus. Et si on avait fait le choix, si on avait réuni toutes ces préfaces qui étaient comme une anthologie du grand dialogue littéraire et philosophique à travers l'histoire, on aurait eu quelque chose de tout à fait étonnant. Et comme toujours, lisible par tout le monde, à la fois inspiré et précis. Ces écrits français sont magnifiques, ce sont quelquefois des œuvres courtes, des dialogues. Il a beaucoup étudié Saint-Augustin, n'est-ce pas? Cet esprit qui touchait d'un côté au marxisme et d'autre part à des préoccupations, très vif intérêt pour les mystiques, pour les grands mystiques du Moyen-Âge, par exemple. Quand il parlait d'eux, la forme de son écriture n'était pas du tout didactique, mais quelque chose d'inspiré, et restant en même temps très simple, le langage que tout le monde pourrait connaître. Thank you.
Jean Toussaint Lesenti, dans votre essai « Un destin philosophique », vous racontez comment le choc que vous avez éprouvé au moment de la grande rafle du Veldiv a été déterminant pour votre propre engagement dans la résistance et également engagement de Dominique de Santi. Est-ce que d'une certaine façon, Grotuisen a été aussi pour quelque chose dans cet engagement?
Dans la forme qu'a pris l'engagement, sûrement. Comme le disait tout à l'heure Dominique, n'est-ce pas, l'influence d'Alix et de Grote a été presque décisive pour nous engager vers le parti communiste.
Ah, pour moi, tout 42, à fait décisive.
À la fin 42.
Et pourtant, dans le cas de Grotewiesen, il n'a lui jamais rejoint le parti communiste.
Non, il n'a jamais été communiste. Mais Alix avait elle-même son propre rayonnement qui était fait de cette intransigeance absolument tranquille. C'était extraordinaire.
Ah, c'était l'ange intransigeant. L'ange intransigeant.
Alors, bon, on avait confiance en elle.
Mais comment se passait ce rapport entre eux sur ce plan, je dirais, idéologique tout de même, cet engagement militant de la part d'Alix et au contraire le retrait du côté de Bernard Grotewiesen?
Ça n'était pas exactement un retrait. Je ne peux pas dire que Grote excusait Alix de ses engagements, pas du tout. Je crois qu'il l'approuvait tout à fait. Mais il pensait que, au fond, il pouvait lui faire autre chose. Hein? Il pouvait peut-être convaincre autrement. Mais je crois qu'il partageait fondamentalement, non pas ses choix politiques immédiats, mais sa vision du monde. Il partageait aussi sa vision de l'Union soviétique. C'était cela qui était assez étrange, pour nous maintenant, mais ça ne l'était pas à l'époque. Pour nous, à partir de 1942, que Grote ait partagé cette vision de l'Union soviétique d'Alix, ça commençait à nous paraître tout à fait naturel.
Oui, alors ça...
Quelle a été sa réaction lorsqu'il a appris votre engagement dans le Parti communiste clandestin?
Ah ben, il était très content. Il était vraiment très content. Alix était ravi. Elle savait bien la part qu'elle y avait. Elle trouvait ça tout naturel, d'ailleurs. Et si vous voulez, alors, Alix est quelqu'un... qui m'a dit avec toute sa foi et toute sa force de conviction, ben, les procès de Moscou, tu comprends, c'était un moment de l'histoire. Ça ne peut pas se reproduire, ça. C'est le communisme de l'immédiate après-guerre civile. Et il ne faut pas voir l'avenir de l'URSS comme ça. Ce sont les séquelles du vieil homme, la fameuse liquidation du vieil homme qu'on n'a jamais fini de liquider. Même en soi, ce sont les séquelles du vieil homme.
Le mot dictature lui était désagréable et pourtant on était dans la phase de la dictature du prolétariat.
Ah oui, mais...
Ce qu'elle pensait qu'il y avait deux dictatures, une mauvaise qui était la dictature fasciste et une bonne qui était la dictature du prolétariat. C'était le sens de sa remarque à Gide.
Et elle ne voulait pas qu'on puisse confondre les deux.
Voilà.
Assimiler les deux.
Voilà. Ce qu'il y a de très curieux, c'est que dans les dernières années de sa vie, car Alix Guilin est morte en 1950, c'est qu'elle avait les désaccords les plus formels avec le Parti communiste et même avec les membres de sa cellule de base. Et elle me disait, mais tu comprends, moi, je ne dis rien parce que je ne veux quand même pas mourir exclu. Ce qui, à l'époque, me faisait beaucoup rire. Alix ne veut pas mourir exclu. Et elle me disait, que veux-tu, ma génération reste toujours un peu anarchiste. Et ça m'amusait également beaucoup parce qu'effectivement, elle était profondément une anarchiste. Parce que, bon... Depuis très longtemps, le Parti communiste voulait que les familles communistes soient des modèles, que par conséquent on soit marié, qu'on ait des enfants, etc.
Il y avait un certain puritanisme.
Oui. C'était pas du tout la vision du monde d'Alix. Je ne suis pas sûre qu'elle ait été très libertine, mais elle était assurément très libertaire. Et certainement, l'embourgeoisement du Parti communiste était pour elle quelque chose de tout à fait incompréhensible, mais encore une fois, elle pensait que c'était une phase.
«
Les Inconnus de l'Histoire, enquête sur un Socrate allemand en dialogue avec Gide et Malraux. Bernard Gruthuysen par Jean Montalbetti, médiateur Jean-Toussaint de Santy, philosophe, professeur à Paris 1, Dominique de Santy, historienne et romancière. Consultant, les poètes Francis Ponge et Jean Tardieu et le philosophe Yvon Bellaval. Les témoignages de Maria van Rieselberg, extrait des Cahiers de la Petite Dame, et de Manès Perber, extrait d'Au-delà de l'oubli, ont été dits par Odile Poisson, avec la voix d'André Gide, dans un entretien réalisé pour la radio par Jean Amrouche. Prise de son, Jean-Louis Boissonnade. Mixage, Maurice Biard. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 janvier 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne à la page des nuits sur le site franceculture.fr.